Il est 7h25 minutes. Ça a été évidemment tout un choc hier d'apprendre qu'une Québécoise de 54 ans était décédée d'une thrombose cérébrale quelques jours après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca. La Santé publique l'a confirmé hier au point de presse. Il y a d'autres cas qui sont présentement sous enquête. C'est sûr qu'on se dit que statistiquement, c'était prévisible d'avoir des cas avec des complications et peut-être même un décès. Mais c'est sûr que c'est un vaccin qui, d'entrée de jeu, a une réputation qui est entachée. Il y a bien des gens ce matin qui se demandent est-ce qu'on se fait vacciner quand même avec du AstraZeneca? J'ai rassemblé toutes vos questions et je les pose ce matin à Dr. Caroline Couache. Dr. Couache, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Bon, c'est sûr, là, statistiquement, entre guillemets, c'était prévisible. Mais là, on parle d'une personne humaine qui est décédée. Puis là, j'ai pas besoin de faire un dessin. Ce matin, il y a des gens qui sont sur les freins, là, qui disent c'est pas pour moi AstraZeneca, là, même si on me le recommande.
Tout à fait, puis c'est tout à fait compréhensible, mais en même temps, depuis le début, le Comité consultatif national d'immunisation avait dit qu'on recommandait préférentiellement les vaccins ARN messager, justement parce que on savait qu'il existait une possibilité, bien que très, très faible, qu'une personne qui reçoive le vaccin d'AstraZeneca ait une complication de thrombose avec un risque de mortalité de 25 à 40. Une fois ceci dit, en bout de ligne, là, tout ça, c'est une évaluation de risque individuel. Donc, on regarde et on se dit, là, présentement, quel est mon risque d'attraper la COVID compte tenu de mon style de vie, de mon travail, de mes expositions, de ce qui se passe autour de moi, parce qu'il y a certaines régions où la COVID se transmet de façon importante, d'autres régions où il y en a beaucoup moins. Et on se dit, quel est mon risque donc d'attraper la COVID pendant le délai que j'ai à attendre avant de pouvoir avoir un vaccin ARN messager, qui est entre quelque part entre une semaine et 6 ou 7 semaines, dépendamment du groupe d'âge dans lequel on est. Et c'est vraiment cette évaluation de risque-là qu'on doit faire, sachant que dans un cas sur 100 000, c'est possible que ce soit moi qui ai une complication grave qui pourrait entraîner le décès, mais qu'il y a quand même une façon de traiter, là. Mais c'est vraiment ça, l'évaluation qu'on doit faire individuellement. Et c'est pour ça que depuis le début, c'est un vaccin qu'on donne de façon très claire au Québec en disant si vous allez ici, vous savez que c'est l'AstraZeneca que vous recevez et c'est dans un contexte de consentement éclairé qu'il est donné.
Mais là, tout de suite, là, j'entends les auditeurs dire « OK, mais là, à Montréal, on parle aux gens de Montréal, le nombre de cas, ça tourne autour de 200. On est impressionné même de voir les résultats. Il faut croire qu'il y a comme une adhésion au principe là, du confinement puis du couvre-feu et du respect des règles sanitaires. » Je suis une femme de 48 ans ou de 50 ans, j'entends ça, je me dis, je vais attendre. C'est pas si pire à Montréal de ce temps-là.
Mais comme je vous dis, là, c'est vraiment une évaluation personnelle. Puis cette personne-là aurait tout à fait raison de dire, bon, compte tenu de ce que je vois, je préfère attendre. C'est correct, mais il faut juste savoir si jamais ça... Le problème, c'est qu'on sait jamais quand est-ce que ça va repartir en fou, là. Si jamais ça repart en fou, ben je ne serai pas protégée à ce moment-là. Donc, c'est difficile, mais c'est cette évaluation-là qu'il faut faire. Puis en même temps, notre perception de risque individuelle est très différente d'une personne à l'autre. Je prends souvent l'exemple des gens à qui on annonce qu'ils ont un gène BRCA1 de cancer du sein. Deux personnes avec les mêmes risques de base ne prendront pas la même décision en termes de mastectomie puis ovariectomie. Donc, c'est vraiment une évaluation personnelle du risque. Il y en a qui sont tellement inquiets par rapport à la COVID qu'ils préfèrent prendre le vaccin, puis c'est correct aussi. Et c'est pour ça que d'un point de vue santé publique, on a calculé un âge en dessous duquel il ne faudrait pas aller compte tenu de l'incidence de la maladie dans la population, parce que là, pour personne, le jeu n'en vaudrait la chandelle.
Bon, il y a beaucoup d'auditrices, je vous dirais, surtout parce qu'on comprend que jusqu'à maintenant, ce sont les femmes là, qui semblent avoir les effets secondaires les plus dévastateurs, là.
En fait, je vous corrige là-dessus.
C'est
il n'y a, il y a pas de préférence pour le sexe. Et ce qu'on voit, c'est que il y a des femmes, mais il y a des hommes aussi qui ont eu des complications. Bon, là, ça donne que c'est une femme qui est décédée, mais on n'a pas d'évidence que les femmes sont plus à risque que les hommes.
Parce qu'il me semblait que les premiers cas qu'on a vus en Europe, c'était des femmes qui avaient été touchées.
Tout à fait, mais c'était surtout les femmes qui avaient reçu le vaccin aussi parce qu'il avait été utilisé pour des travailleurs de la santé.
Ah, okay.
Là-bas, comme ici, il y a plus de femmes là, qui sont travailleurs de la santé.
OK. Une question hyper pratique, là, les symptômes. Parce que j'ai trouvé vraiment que la famille de Mme Boyer, son conjoint notamment, qui dit « Allez vous faire vacciner quand même, mais surtout, si vous avez des symptômes, n'hésitez pas à appeler puis à aller à l'hôpital et à consulter. Dr. Couache, quels sont les symptômes? »
Alors, ce qu'on dit de surveiller, c'est une survenue d'un mal de tête qui est important avec ou sans vertige, des difficultés respiratoires, un essoufflement, douleur abdominale importante, enflure au niveau des jambes, à ce moment-là, on appelle 811 puis on consulte. Mais c'est vraiment, ce sont vraiment des symptômes qu'on peut pas passer en dessous du tapis, là, on n'est pas bien. C'est sûr que, tu sais, souvent après l'AstraZeneca, dans les deux premiers jours, on a l'impression qu'on s'est fait rouler dessus par un camion, là, comme si on faisait une grosse grippe. C'est pas ça. Les symptômes associés avec la complication de thrombose surviennent généralement entre le 4e et le 16e jour après la vaccination, donc aussi les surveiller dans cette période de temps-là.
Si j'ai eu ma première dose avec AstraZeneca puis j'ai pas eu vraiment d'effet secondaire, quand va arriver le moment de la deuxième dose, est-ce que ça va bien se passer ou il y a quand même un danger que ça soit plus difficile?
Mais pour l'instant, on a l'impression que ce qui est rapporté dans les essais cliniques, là, c'est que les effets systémiques surviennent autant après la première qu'après la deuxième dose. Donc, contrairement au vaccin Pfizer et Moderna, où on a un peu de symptômes après le premier, mais après le deuxième, on a l'impression qu'on s'est fait passer dessus par un camion. Avec l'AstraZeneca, le gros des symptômes arrive déjà à la première dose. Maintenant, est-ce que les complications de thrombose risquent de survenir à la deuxième dose? Pour l'instant, on n'a pas ces données-là. On a plutôt l'impression qu'ils sont concentrés après la première, mais est-ce que c'est un biais de détection plutôt ou parce que de sélection plutôt parce que les gens qui ont des complications à la première dose ne recevront pas la deuxième? Tu sais, on ne sait pas trop, là, mais pour l'instant, il n'y a pas d'évidence que la deuxième soit plus à risque que la première. Ceci étant dit, on regarde présentement les études, les résultats d'une étude qui devrait sortir bientôt là en Grande-Bretagne où ils ont fait un calendrier mixte. Donc, les gens ont reçu une première dose d'AstraZeneca, une deuxième dose de Pfizer et c'est possible que ça fasse partie là, des choix quand viendra le temps de la deuxième dose.
Donc, ça veut dire alterner le fabricant ou en tout cas pas donner nécessairement le même fabricant. Mais je reviens à ce que vous avez dit. Dans le cas de Pfizer et de Moderna, c'est la deuxième dose qui semble être, disons, la plus... qui donne des effets plus durs, là?
Oui, tout à fait. Des effets, tu sais, on peut faire de la fièvre, avoir mal partout, mais sans complications de thrombose. Les vaccins de Pfizer et Moderna ne sont pas associés avec des thromboses de ce genre-là du tout, du tout.
Bon, il y a beaucoup d'auditrices qui me disent, puis je vous donne un cas type, là. J'ai 47 ans, j'ai quelques problèmes de santé, par exemple hypertension, d'autres qui ont une historique déjà de diabète, ou bref, des femmes qui se disent, est-ce que quand on a des conditions de santé qui peuvent poser un problème, c'est un vaccin qu'on doit éviter?
Il n'y a pas plus. En fait, avec le vaccin d'AstraZeneca, la beauté ou le problème, c'est que ces thromboses-là ne semblent pas être prédisposées par quelque autre facteur que ce soit. Donc, pour l'instant, quand on a regardé tous les cas, il n'y avait rien qui ressortait, qui disait « Ah, cette personne-là, évidemment, a fait une thrombose, c'était prévisible ». Mais donc, les gens peuvent déjà, si elles ont des conditions médicales chroniques, se faire vacciner parce qu'elles rentrent dans la catégorie des conditions chroniques suivies en ambulatoire, là, si je comprends bien. Ils peuvent, à ce moment-là, décider soit d'aller prendre le vaccin AstraZeneca ou attendre un peu plus longtemps et avoir le vaccin Pfizer ou Moderna. Là. Ça fait partie des choix, mais d'avoir des conditions médicales sous-jacentes ne font pas en sorte qu'on soit plus à risque de complications avec l'AstraZeneca.
OK. Est-ce que les mêmes questions et les mêmes restrictions vont se poser avec le vaccin de Johnson & Johnson là, qui a été approuvé et qui va être distribué?
Tout à fait. Et ça fait partie aussi de la réflexion qu'on a au niveau du Comité consultatif national d'immunisation. C'est donc de faire ce même exercice de mettre en rapport les bénéfices de la vaccination précoce à une dose en plus versus les risques potentiels de complications de thrombose parce qu'aux États-Unis, présentement, ils ont recensé 15 cas en plus d'un cas dans l'étude randomisée contrôlée pour une incidence habituellement présentement de 1 sur 500 000. Mais on s'attend à ce que l'incidence augmente un peu parce qu'au fur et à mesure de l'utilisation, on finit par en détecter plus. Mais donc, le même exercice de risque-bénéfice fait pour l'AstraZeneca est fait aussi pour le vaccin de Johnson & Johnson. Et donc, c'est possible qu'on arrive aussi avec un âge limite en deçà duquel on ne recommande pas la vaccination.
Les femmes enceintes, là, allons faire un autre sujet, c'est finalement accepté. Je pense qu'il était temps qu'on puisse les vacciner.
Tout à fait. Et donc, elles peuvent se faire vacciner prendre rendez-vous à partir d'aujourd'hui. Et pour elles, on recommande un vaccin à ARN messager. Donc, elles ne seront pas vaccinées avec l'AstraZeneca parce que, compte tenu que c'est un vaccin à vecteur viral et qu'on n'a pas de données sur ce vaccin-là, alors qu'on a des données sur les vaccins à ARN messager. Il y a un papier qui a été publié cette semaine ou la semaine dernière, en fait, par les CDC américains qui démontrent que les vaccins à ARN messager sont sont tout à fait bien tolérées, qu'il n'y a pas de risque pour le fœtus et que les études de tératogénicité là, qui ont été faites chez le primate non humain sont tout à fait rassurantes.
OK. Une question qui est complètement, je dirais, hors de votre champ direct, mais c'est quand même la suivante. Pour atteindre l'immunité collective, avoir un nombre assez de gens qui ont les anticorps, soit qui ont eu la maladie ou qui ont été vaccinés, puis là, on peut débattre du chiffre, il y a de plus en plus de voix qui se font entendre, qui disent qu'il faut donner une espèce de que ce soit un montant d'argent, bref, une carotte pour que les gens, surtout que les derniers, parfois, sont les plus réticents, afin d'atteindre l'immunité. Votre collègue, Dr. Weiss, dit, ben donnons un peu d'argent. Le président Biden dit qu'il faut payer les gens pour aller se faire vacciner. Pensez-vous qu'on doit regarder l'option pour atteindre le maximum de gens vaccinés, ce type de récompense? Il y a des employeurs qui le font, là.
Je pense que de permettre la vaccination sans impact monétaire en termes de perte de temps de travail, ça, c'est tout à fait dans les cordes. Pour la suite, est-ce que cette carotte-là va vraiment faire changer les choses? J'en ai aucune idée. Je pense que ça prend des spécialistes en comportement là pour comprendre si cette carotte-là fonctionne vraiment. Je pense que tous les moyens doivent être pris pour atteindre cette immunité de groupe. Si c'est la carotte, ben ça sera la carotte. Je trouve ça un peu poche d'être obligé de soudoyer les gens
pour
se faire vacciner, là, mais bon.
Mais je regardais dans le réseau de la santé, on a dit aux gens, donnez-nous une preuve que vous êtes vacciné, sinon on vous teste trois fois par jour. Semble-t-il que ça a convaincu des gens de se faire vacciner.
Oui, ben on a aussi mis derrière une grande campagne de communication où les rencontres, on leur parle, là, mais c'est sûr qu'on essaie de faire tout ce qui est en notre possible pour que les gens se fassent vacciner, pour qu'on puisse sortir de cette pandémie, parce que clairement, on en a tous marre. Là. Mais oui.
OK, j'ai une dernière question.
Oui.
Un peu bizarre peut-être. Beaucoup des gens me disent, est-ce qu'il y a quelque chose à faire quand on reçoit le vaccin? Prendre quelque chose ou avoir pour éviter un effet secondaire comme la thrombose?
Oui, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui marche vraiment. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui me disent « Est-ce que je peux prendre une aspirine de bébé? »
Exemple.
Je leur dis toujours « Je vois pas de problème à ce que vous preniez une aspirine de bébé, mais je suis pas convaincue que ça va marcher non plus parce que je sais pas si elle est assez forte, l'aspirine de bébé, pour défaire la réaction thrombotique là, au niveau des plaquettes. » Mais bon, quand on regarde les recommandations de santé publique, on recommandait de prendre une aspirine de bébé quand on avait plus de 50 ans pour éviter les problèmes cardiaques. Alors, d'un point de vue santé publique, il devrait pas y avoir de problème d'effet néfaste de cette aspirine de bébé-là, mais je ne sais pas si vraiment ça va changer quelque chose. Les études ne l'ont pas regardé encore.
Merci beaucoup, Dr. Kouache. Bonne journée.
Merci, M. Arcand.
Au revoir, Dr. Caroline Kouache, qui est pédiatre, microbiologiste, infectiologue. Elle est aussi la présidente du Comité consultatif national de l'immunisation.